ce sujet, la démocratie et la loi de la majorité. Alors ce sujet appelle normalement la compétence de plusieurs personnes, puisqu'on peut mobiliser sur une telle question à la fois un philosophe politique, ce qui est ma spécialité, un juriste spécialiste de droit constitutionnel, vous allez voir pourquoi, un spécialiste de sciences politiques, qui par exemple pourra traiter des questions non seulement d'institutions mais aussi de sociologie du problème, vous allez voir, enfin, et comment, un spécialiste d'histoire. Donc c'est un sujet qu'il est assez difficile d'épuiser en 45-50 minutes, hein, c'est le temps de parole que je vais me donner, mais vous allez voir que même en esquissant des grandes lignes à ce propos, on peut trouver matière à discussion ensemble, hein, c'est le but du jeu aussi. Je ne doute pas qu'avec un peu de discipline, vous allez réussir à le micro circulant poser des questions sur un certain nombre d'aspects que mon intervention vise à susciter ou stimuler. Alors, il se trouve que devant nous, là, à moins que d'autres soient arrivés, nous avons au premier rang 12 personnes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 maintenant. Mince. Bon, en tout cas, les 13 devant vont constituer un panel pour une petite expérience tout à l'heure. Bon, pour mettre en pratique les arguments théoriques qui vont être les miens. Alors, on pourrait, si on était rigoureux, travailler avec la totalité de la pièce, mais enfin, ça va être plus difficile compte tenu du temps imparti, mais ça serait mon vœu. C'est de vous faire travailler là-dessus et vous pourrez refaire l'expérience chez vous. Alors, on entend par loi de la majorité, ou plus exactement règle de majorité, un système d'organisation politique selon lequel, bien entendu, le plus grand nombre est reconnu comme apte pour prendre des décisions concernant la totalité d'un groupe. Le plus grand nombre du groupe est reconnu comme apte pour prendre des décisions concernant la totalité du groupe et concernant aussi le moins grand nombre, le nombre restreint qui n'a pas pris les mêmes options. Telle est donc la loi ou règle de la majorité. Alors apte, ça veut dire deux choses en fait. Ça veut dire que ce plus grand nombre est reconnu comme capable de prendre de telles décisions, et on verra tout à l'heure s'il en est capable, et d'autre part, il est reconnu comme légitime. Il est reconnu comme légitime. Cette question de la légitimité politique est au cœur du problème que nous avons à aborder ensemble tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, capacité, légitimité. La loi de la majorité, la règle de majorité stipule, c'est très, très empirique, tout le monde sait ça, mais je le précise pour démarrer ensemble d'un bon pied, qu'en fait, le plus grand nombre va prendre une option. On estime que cette option, elle est légitime. On va voir ce que ça signifie. Alors, bien entendu, cette règle constitue ce qu'on peut nommer un organe vital de la démocratie. Organe vital, qu'on pourrait dire, le cœur de la démocratie, ou plus prudemment, un des poumons de la démocratie. Cette règle constitue un organe vital, quoi qu'il en soit, de la démocratie. Ce terme de démocratie, il importe de le définir, n'oubliez jamais de définir les concepts, même de manière prudente, et pour revenir ensuite peut-être sur une définition plus complète à la fin de votre démarche. Sur cette démocratie, cette notion de démocratie qui est très vaste et sur laquelle moi, je consacre une partie de mon temps de recherche, mon temps de travail, on peut faire trois considérations. La démocratie peut signifier un système politique qui s'impose régulièrement dans l'histoire humaine avec un certain fracas. Un système politique qui s'impose régulièrement dans l'histoire humaine avec un certain fracas. Je n'en dirai pas plus à ce propos, mais probablement nous en parlons tout à l'heure. Aujourd'hui, plusieurs nations du Maghreb ou de l'Afrique du Nord font l'expérience de ce fracas du surgissement de la démocratie. C'est la première considération qui nous envoie à l'actualité la plus brûlante. Deuxième considération, on entend par démocratie une organisation du pouvoir qui est pleine de promesses. Elle est pleine de promesses en termes de progrès de la liberté. Vous voyez, c'est ce qui explique peut-être le fracas qu'on peut constater dans l'actualité. Les promesses de la démocratie relèvent des progrès possibles de la liberté. Donc de là s'ensuit ce que le philosophe Kant, au XVIIIe siècle, appelait l'enthousiasme, forme d'enthousiasme. Alors peut-être que ne plus être assez enthousiaste pour la liberté et pour la démocratie, c'est aussi un problème. On en parlera peut-être tout à l'heure. Dernière caractéristique qui concerne, à propos de cette notion de démocratie, eh bien, elle renvoie à une organisation non seulement politique, mais aussi sociale, elle renvoie à une forme de société qui s'est développée avec la modernité. Il y a un lien extrêmement fort entre modernité, fin de la tradition ou du pouvoir de la religion et de l'Église, rationalisme et démocratie. Vous voyez, modernité, fin du pouvoir de la religion, enfin, disons, mise entre parenthèses de ce pouvoir qui était très prégnant au Moyen-Âge, hein, et à partir du XVIe et XVIIe siècle, expérience, donc, dans le monde occidental moderne et rationaliste de la démocratie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire sur le dernier point, c'est quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle la sécularisation. La démocratie est prise, dans son apparition historique, comme forme de société, comme manière de vivre ensemble, dans le processus de sécularisation, qui a connu plusieurs modifications, plusieurs métamorphoses, on en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez, la démocratie est quelque chose de très important qui apparaît avec notre manière d'être profonde, notamment dans la manière que nous avons de nous concevoir comme des individus. Je ne doute pas que vous vous conceviez comme des individus. Eh bien ça, c'est profondément démocratique. J'ai devant moi un certain nombre d'hommes et de femmes démocratiques. D'homo democraticus, de manière générique. Voilà. La manière d'être, de se penser comme une individualité, relève de la démocratie, on va le voir tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai dit, après cette caractérisation sommaire de la démocratie, que la loi de majorité constituait un organe vital de cette démocratie, qu'il faut entendre à plusieurs sens différents. Il y en a d'autres. Il y a d'autres caractères ou traits distinctifs qui sont les organes vitaux de la démocratie. Le respect de la pluralité, la possibilité de débattre publiquement, les droits de l'homme et du citoyen, l'égalité et le respect de la dignité. Donc pluralité, possibilité d'un débat public, droits de l'homme, égalité, dignité et aussi, par exemple, recherche de l'équité. Alors vous voyez, la question de la majorité est une question importante, et ce n'est pas la seule question de la démocratie. Et à la fin de l'exposé, vous verrez que peut-être que tout ça s'organise à partir d'une place qu'on va pouvoir assigner à cet organe, à cette fonction vitale qu'est la loi de la majorité par rapport aux autres. Le corps social de la démocratie se porte bien quand un certain nombre d'organes sont en place et fonctionnent, si je peux continuer cette métaphore. Alors, en réalité, ce que j'ai dit, finalement, mérite un certain nombre d'approfondissements maintenant. C'était des considérations générales, et sans, vous voyez, problématiser davantage, il importe maintenant, et c'est le premier moment de mon intervention, hein, il y en aura deux principaux, il importe que nous caractérisions la règle de majorité. Alors, majorité et minorité se dégagent, classiquement, au terme d'une procédure d'expression populaire. Au terme d'une procédure d'expression populaire. Bon, un vote, par exemple. Voilà. Une expression populaire. Alors, il y a plusieurs formes de majorité. Ce qu'on appelle, génériquement, de manière large, la loi de la majorité, s'entend en plusieurs sens. Et il va falloir choisir dans quel sens on peut l'entendre, nous. Il y a d'abord des procédures où l'on qualifie, on établit une majorité simple, d'autres où l'on établit une majorité qualifiée, d'autres, enfin, ou encore, où on tente d'établir une majorité absolue. Alors, la majorité absolue, c'est la plus connue. Eh bien, c'est la procédure selon laquelle va emporter la décision la moitié du corps des votants, plus un, plus une voix. Donc, admettons que le premier rang soit 12, ça va nous simplifier s'ils sont 12, hein, excusez-moi. Admettons qu'ils sont 12, la majorité absolue, c'est combien? Vous êtes sûr? Voilà. Vous allez voir que le problème politique est, sur la question de la majorité, un problème arithmétique. Cette erreur est tout à fait salutaire, merci beaucoup. Tout était répété, vous inquiétez pas. Donc, voilà, c'est 7. Hein, majorité absolue, c'est 7 personnes sur un ensemble de 12. Majorité simple. Alors, majorité simple, c'est, par exemple, s'il y avait 100 personnes, et qu'il y ait 70 abstentions, si 20% des votants s'exprimaient dans un sens, et 10% dans un autre sens, la majorité simple serait celle des 20% de votants. Hein? On se fonderait sur 20% de votants, quand bien même 70% de la population se serait abstenue. Voilà. Enfin, la majorité qualifiée, on précise parfois aux deux tiers, eh bien, comme son nom l'indique, implique que sur 100 personnes, on s'appuie sur la position exprimée par 67 personnes. Hein, donc, les deux tiers. Bon, là, j'ai simplifié. Voilà. Alors, vous voyez qu'il est très, très dans le sujet qu'on m'a demandé de traiter avec vous. Hein. Il y a d'autres sujets possibles sur la démocratie, mais dans ce sujet-là, comme je viens de le dire, il est question du comptage des voix politiques, il est question de la procédure qui permet de prendre une décision en se fondant sur le plus grand nombre dans une règle qu'on a définie à l'avance. Alors c'est très intéressant parce que ça peut sembler comme ça vraiment une... Vous voyez, c'est de la science politique ça, c'est-à-dire il y a des spécialistes de ces questions, des questions arithmétiques et d'organisation politique à partir de l'arithmétique. Et on est un peu sorti de la philosophie pour parler de sciences politiques ou même de droit constitutionnel. Eh bien, c'est très intéressant parce que pourquoi on en est venu à cela? On en est venu à cela pour une simple raison, c'est que on en a fini avec le désir ou l'espoir d'unanimité. Historiquement, le moment où la loi de majorité ou la règle de majorité s'impose, eh bien, c'est le moment où précisément on rentre dans la société moderne où ce qui compte n'est pas l'unanimité, c'est le comptage du rapport de force dans une société humaine. Les individus, vous voyez, j'ai parlé d'individualité pour qualifier la modernité et la démocratie, les individus s'expriment, et c'est l'expression, leur expression précisément comptée, qui permet de fonder les décisions politiques. Auparavant, dans une époque qui peut sembler, si on l'aborde superficiellement, pré-démocratique, il y avait un égal souci de l'équité, par exemple, de la dignité humaine, mais qui passait par la volonté de mettre en place de l'unanimité. Alors on le voit bien particulièrement, par exemple, dans l'Église, dans les systèmes conventuels, par exemple, hein, les systèmes où on doit élire l'abbé d'un couvent. Eh bien, ce qui se passe dans ces règles, c'est qu'on cherche l'unanimité. On ne cherche pas la majorité. Dans le même ordre d'idées, si vous voulez, il y a un certain nombre d'expériences politiques par lesquelles bien avant qu'il existe une démocratie et qu'elle se développe aux USA et en France et dans les autres pays européens et occidentaux, il y a eu un certain nombre d'expériences où ce qu'on visait, c'était l'unanimité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce système du respect des décisions majoritaires, il peut prendre plusieurs formes. Alors, précisons un peu les formes qu'il peut prendre. Il peut prendre une forme d'un scrutin à un tour, à deux tours, ou à un nombre infini de tours. Alors, dans le système de la Ve République, notre système, il y a combien de tours pour désigner les représentants législatifs et exécutifs? Deux? Bon, c'est bon. Vous pouvez voter, vous avez le droit. Donc, c'est un scrutin uninominal, une personne, en tout cas, voilà, une personne à deux tours. Le système au tour infini, qui ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas trouvé une majorité, par exemple, absolue. Eh bien, c'est le système de l'élection du pape encore aujourd'hui, le système du conclave. Sous la Troisième et la Quatrième République, il y avait aussi un système à tour infini. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui implique que on cherche à définir une majorité qui ressemble à de l'unanimité. Vous voyez, cette majorité qui ressemble à de l'unanimité, dont on peut dire que nous, on a fait notre deuil par un scrutin uninominal à deux tours. Ce scrutin uninominal à deux tours, il ne cherche pas l'unanimité. Il cherche à définir une majorité, et puis la minorité, qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas-là? Elle doit suivre ce qu'a décidé la majorité. Alors vous voyez, là on peut se rendre compte que cet organe vital de la démocratie, qui est la loi de majorité, est un organe vital peut-être secondaire. Peut-être secondaire. En effet, il est peut-être plus important pour la démocratie que l'on respecte le droit de parole de la minorité. Et véritablement démocratique, peut-être, un système où la majorité s'étant exprimée, on écoute ce que dit la minorité, on écoute, si vous voulez, ce que dit l'opposition, hein, et véritablement démocratique, les peuples du Maghreb s'en rendent compte aujourd'hui, un système, enfin, leurs revendications vont dans ce sens-là, un système où la minorité a un droit d'opposition. C'est pas dans toutes les lois, dans tous les systèmes où il y a une loi de majorité, il n'y a pas forcément de respect des droits de la minorité comme opposant. Vous voyez ? C'est un point extrêmement important, me semble-t-il, qui est le fait de respecter la minorité. Alors, ce problème du dégagement d'une majorité, voyez, très technique, hein, on dégage une majorité et ensuite, cette majorité va pouvoir régner. Hein. Ce problème, si vous voulez, général de la démocratie, pose un certain nombre de questions. Il pose une question qu'on rencontrerait très vite si on avait à faire cette procédure ensemble, hein, si on avait un peu de temps, on prendrait quelques décisions en commun, là, collectives, pour voir ce qui se passe. On verrait très vite que va apparaître la question de la transcription des voix exprimées en siège dans une assemblée. Comment fait-on ? On peut le faire très facilement pour une assemblée, là, spontanément, en démocratie directe. Mais quand on va élire des représentants, quand on va désigner des représentants, comment transcrit-on le nombre de suffrages exprimés en siège dans une assemblée, vous voyez, dans un système représentatif ? Cette question est très très vive parce qu'on a constaté en sciences politiques, il y a des tas d'études là-dessus, que le système du dégagement d'une majorité, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la majorité sur laquelle on va statuer, hein, qu'on va prendre comme base, eh bien, sacrifie les petits partis. Sacrifie les petits partis, et même ce qu'on peut appeler le troisième parti, le parti qui arrive en troisième, est systématiquement sous-représenté. En gros, la loi de majorité introduit dans la vie démocratique un système de bipolarisation. Un système de bipolarisation, alors qui est très net dans le système français, par exemple, où on a un regroupement des différentes droites et gauches, des différentes sensibilités de la droite et de la gauche, qui se confrontent dans un hémicycle qui est verrouillé de ce point de vue, par exemple. Alors, vous le savez peut-être, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est horriblement technique, mais depuis la fin du XIXe siècle, on a essayé de mettre en place, en France en particulier, un autre système, qui est le système de vote proportionnel. Ce système de vote proportionnel, hein, sur lequel on pourrait s'étendre un peu plus, il a un avantage, il permet l'expression des minorités. Des plus infimes minorités, elles peuvent être représentées dans un système de vote majoritaire qui envoie des représentants dans une assemblée. Et il a un autre avantage, il permet de dégager des coalitions gouvernementales entre des gens qui, vous voyez, n'ont pas grand-chose à voir, mais qui arrivent à s'entendre pour faire une action gouvernementale commune. On n'est pas obligé d'avoir un bloc de majorité extrêmement fort pour pouvoir gouverner. Simplement, ce système de proportionnel, il a un gros défaut. Il permet l'expression des voix extrémistes. C'est lui en particulier qui, en Allemagne, lors de la République de Weimar, a permis l'expression du parti nazi. Dans un système à majorité et à minorité, ce parti ne serait pas exprimé. Bon, peut-être les nazis auraient pris le pouvoir autrement, mais en tout cas, leur entrée au Reichstag a dépendu d'un système proportionnel. Alors vous voyez que ce n'est pas parce qu'on a un système d'expression populaire que la démocratie est raisonnable. J'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie. La question, vous voyez, du rapport entre, on entrevoit ici, que la question du rapport entre la démocratie et la loi de majorité, c'est une question complexe, parce qu'il ne suffit pas que la majorité s'exprime pour qu'on soit dans une démocratie. Du moins, dans les caractères pleins et entiers de l'idée de démocratie, où sont respectés les droits de l'homme, la dignité humaine et l'équité. Voilà. Il y a des démocraties majoritaires, liberticides, dégradantes pour les droits humains, et dégradantes pour les minorités. On y reviendra tout à l'heure. Alors, une autre remarque un peu générale. Depuis tout à l'heure, nous parlons de loi de majorité, et donc nous parlons d'élection. Nous confondons donc le principe de cette élection, le principe en tout cas d'expression d'une majorité, et la démocratie. Or, cela est proprement problématique. En effet, qui sont les fondateurs de la démocratie ? Les Grecs, très bien, les Grecs. Sachez que chez les Grecs, l'élection et l'expression d'une majorité relèvent de l'aristocratie et non pas de la démocratie. Pour les Grecs, pour les Athéniens très particulièrement, relève de la démocratie le tirage au sort. Si nous étions l'Athènes de la grande époque, donc l'Athènes du plein essor de la démocratie, nos représentants ici, si nous étions par exemple l'ensemble du corps civique athénien, l'ensemble des citoyens, et en admettant qu'on commette cet affreux contresens, l'ensemble des citoyennes athéniennes, puisque sachez que en ces temps bénis les femmes ne votaient pas. Bon. Eh bien, sachez que si nous étions l'ensemble du corps civique des Athéniens, nous désignerions nos représentants par tirage au sort. Vous voyez l'avantage de ce système est d'autant plus fort qu'il inclut les deux genres, quoi, le genre masculin et le genre féminin, c'est que dans ce système de tirage au sort, il y a une égalité complète des hommes et des femmes. C'est du fait de l'égalité complète, bon, chez les Grecs c'était les citoyens masculins, et chez nous les hommes et les femmes, c'est du fait de cette égalité complète que n'importe qui peut être reconnu comme digne d'une compétence civique, d'une compétence de décision et de responsabilité politique. Vous voyez la force de ce système. Les Grecs n'ont pas voulu mettre en place la loi de majorité, ce genre de choses, qu'ils considéraient comme aristocratiques, comme supposant la désignation d'une excellence de certaines personnes par rapport à d'autres. Ils ont préféré considérer que le tirage au sort garantissait la démocratie, c'est-à-dire l'égalité fondamentale des gens. Voilà. Imaginez une mise en place générale du système démocratique, du système de tirage au sort. Imaginez par exemple que, quand vous aurez 18 ans, c'est probablement le cas pour certains d'entre vous, vous puissiez être désigné comme maire de votre arrondissement, maire de la ville de Paris, comme élu à la Chambre des députés. Ne serait-ce pas merveilleux? Hein? Moi, je suis un fervent défenseur du tirage au sort. Sachant que le tirage au sort oblige à la responsabilité civique. Quand on est tiré au sort dans un jury d'assises, on ne peut pas se dérober. Il faut aller juger la personne qu'on vous a demandé de juger collectivement. Et à moins on est obligé de le faire, quoi. Voilà. Vous voyez donc ce système de tirage au sort qui oblige les individus tirés au sort à exercer la charge politique. Système très fort qu'on a qualifié de liberté des anciens. La liberté des anciens implique la participation active des citoyens. Ils n'ont pas le choix de ne pas participer. Nous sommes depuis, en gros, le 19e siècle, dans un système qu'on appelle la liberté des modernes, qui implique la désignation de représentants qui exercent à notre place la capacité politique. Ou plutôt, nous exerçons la capacité politique comme citoyens, mais nous désignons une compétence supplémentaire, qui est celle de l'élu, élu au sens fort du terme, au sens presque théologique du terme, élu reconnu en fonction d'une distinction supérieure à la moyenne des individus. D'où le fait que quand on est élu, effectivement, on puisse avoir parfois l'impression d'être supérieur aux autres hommes. Puisque c'est bien ce qu'ont voulu dire les gens qui ont voté pour vous, je vote pour tel candidat parce qu'il est supérieur aux autres. Alors ça, c'est un système qui est, vous voyez, problématique et discutable dans une démocratie, laquelle implique l'égale dignité des individus, normalement, leur égale compétence aussi bien. Vous voyez donc cette loi de majorité n'est pas par elle-même garante de la démocratie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un des grands philosophes contemporains de ces questions, qui s'appelle Pierre Rosanvallon, dans son livre « La légitimité démocratique », très bon livre sur cette question, écrit « La règle majoritaire s'est ainsi introduite presque subrepticement dans la constitution des démocraties, comme une sorte de nécessité pratique qui n'a jamais été, en son origine, pleinement réfléchie. Elle s'est imposée sans que la notion de majorité ait été philosophiquement fondée et dotée d'un véritable statut constitutionnel. » Ce que veut dire Rosanvallon, c'est que la notion de majorité est apparue à la fin du XVIIIe siècle, grosso modo dans le contexte de la Révolution française, avec un auteur comme Emmanuel Sieyès, l'abbé Sieyès, et qu'on a utilisé cette règle de majorité comme une ressource pratique très utile pour désigner des représentants. Sauf qu'on a perdu de vue que, précisément, les fondateurs de la démocratie, à savoir les Grecs, n'auraient jamais fait comme ça. Ils se seraient méfiés de cette règle au nom de leur principe de tirage au sort. Alors, on peut aller un peu plus loin en disant que, en fin de compte, cette question de la démocratie qui dégage des majorités, qui s'appuie sur la majorité, pose certains problèmes essentiels, tout en ne les saisissant pas vraiment, vous allez voir. Premièrement, la question, quoi qu'il en soit de la démocratie, c'est qui vote? Qui dégage la majorité? Évidemment, ce qui est posé ici comme question, c'est plus précisément celle de la capacité civique ou compétence civique. À quel âge peut-on voter? Quel genre peut voter? Homme et femme? Homme ou femme? Et quelles conditions faut-il pour voter? Il y a eu tout un pan de l'histoire de France où ne votaient que ceux qui payaient un certain niveau d'impôt. C'est ce qu'on appelle la compétence censitaire, la capacité censitaire. Autre problème que ne traite pas la question de la majorité, mais qu'on ne peut pas ne pas traiter, c'est comment s'organise le système des représentants. Hein? Qu'est-ce qu'un représentant politique? Pour qui vote-t-on? Cette majorité, quelle délégation de pouvoir accorde-t-elle aux représentants? Ah oui, donc là encore, un problème énorme qu'il faut continuer de traiter quand on a parlé de cette histoire de loi de majorité dans un système démocratique. Autre problème, justement, le dégagement de la majorité est-il ou non connecté à un système de représentation? On peut très bien imaginer qu'on utilise la loi de majorité sans voter pour des représentants. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait dans certains types de procédures dans la Ve République. Dans quel type de procédure d'expression populaire une majorité s'exprime sans qu'on vote pour un représentant? Voilà le système du référendum, bien entendu. Ce système du référendum, si vous voulez, il permet, pour ainsi dire, une expression plus directe. Une expression plus directe de la loi de majorité. Alors, vous voyez que tous ces éléments plus factuels, plus techniques, permettent maintenant de se rendre compte à quoi on a affaire avec cette loi de majorité dans, voyez, sa force et dans ses limites. On a à voir avec une expression populaire qui est créatrice de légitimité. Une expression populaire qui est créatrice de légitimité, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'aimerais maintenant m'arrêter un peu sur cette question de la légitimité. Au fond, ce qu'on attend de la loi de majorité, pourquoi on a pris la loi de majorité, on a choisi la dans le système démocratique la loi de majorité, c'est bien entendu qu'on attend de cette loi, de cette règle de majorité, qu'elle rende une décision la moins contestable possible. La moins contestable possible. Qu'est-ce que c'est que la légitimité, selon les termes classiques? La légitimité, c'est un économiseur de coercition. On attend de la légitimité qu'elle agisse comme un économiseur de coercition. Bon, qu'on le veuille ou non, la politique consiste toujours à décider qui commande et qui obéit. Alors, on ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais je suis un spécialiste de Machiavel, et ce que j'aime bien chez Machiavel, c'est qu'il revient à cette question essentielle et terriblement gênante. En politique, on choisit toujours à un moment donné, on décide toujours à un moment donné, c'est très discutable, mais on le fait, qui commande et qui obéit. Ce qu'on a voulu trouver, ce qu'on a voulu mettre en œuvre avec la loi de majorité, c'est un économiseur de coercition. C'est-à-dire trouver un système où la désignation de qui commande et qui obéit est la moins discutable possible et on n'a pas besoin de passer à la coercition, c'est-à-dire à la contrainte, voire à la violence. Grâce à la loi de majorité, on obtient un gain de légitimité. Alors, vous voyez, donc c'est pas simplement... Ce qui est très important ici, c'est que on peut faire deux remarques. Ce qu'on obtient avec cela, c'est un système d'organisation assez simple qui permet donc d'éviter la violence. On va dire, voilà, sur telle ou telle question, la majorité, donc simple, qualifiée, absolue, après, faut s'entendre, ça peut être problématique, mais on peut s'entendre, eh bien, a décidé cela, et la minorité ou les minorités doivent obéir, doivent suivre, moyennant une certaine discipline, hein, on va leur donner des droits, mais elles doivent suivre ce que la majorité a choisi, a décidé. Sauf que c'est pas tellement cela qu'on attend du dégagement d'une majorité, c'est pas ça qu'on attend par le gain de légitimité. Ce qu'on attend par là, me semble-t-il, et là je reviens sur un terrain plus proprement philosophique et moins Sciences Po, ou moins droit constitutionnel, ce qu'on attend, c'est une création de sens pour la collectivité. Sur des questions essentielles, la majorité prend une position, disons, on se rend compte par exemple que les citoyens majoritairement optent pour telle ou telle position. Ils expriment leur suffrage pour telle ou telle décision qu'on peut prendre à leur place ensuite, hein, donc, ou directement quand c'est un référendum. Ce qui veut dire que dans une démocratie, le sens vient de la pratique politique. Et tel est, vous voyez, le sens anthropologique très profond de la démocratie. Dans une démocratie, dans une société démocratique, nous n'attendons pas de la tradition, nous n'attendons pas de Dieu, nous n'attendons pas de la violence d'un certain groupe, nous attendons de nous-mêmes, finalement, de produire les options les plus importantes pour notre vie. Vous voyez ? Voilà pourquoi, me semble-t-il, la démocratie a part liée avec la modernité, où l'on va consacrer l'individualité. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe aussi au Maghreb actuellement. C'est pas tellement, les gens ne cherchent pas tellement une règle d'organisation plus simple. Ce qu'ils cherchent à trouver, ce sont des options qui viennent de la collectivité elle-même. Ces options, elles concernent le sens qu'on donne à l'existence. Rien moins que cela. Ainsi, doit-on comprendre effectivement l'apparition de la démocratie au sein du processus de sécularisation dans un système où on attend de la politique qu'elle donne du sens à la vie. On attend de la politique qu'elle donne du sens à la vie. Alors, c'est extrêmement important, vous voyez, de bien concevoir cela. Et on peut s'en rendre compte avec un certain nombre d'exemples. Alors là, on va prendre le premier rang comme cobaye, volontaire, désigné volontaire. Hein, on va dire, par exemple, que on va demander au premier rang, aux 12 premiers, par exemple. Vous voyez, le temps va me manquer, mais enfin, on pourrait faire cette petite expérience. Hein, de dire, voilà, vous devez vous prononcer sur une question crucial pour aujourd'hui. Alors, on pourrait trouver ensemble la question. Ce serait ça qui serait véritablement démocratique. Mais enfin, on pourrait dire, voilà, je vous facilite un peu la tâche. Ça va être une question cruciale qui concerne le rapport à l'énergie, le rapport, on va voir, de l'homme à son activité, le rapport à l'intérêt général, évidemment, puisqu'on parle de politique, et même le rapport à notre civilisation, carrément. Admettons que le premier rang, qui est majoritairement composé de filles, d'ailleurs, excessivement composé de filles, donc, eh bien, parce que peut-être qu'il y a un traitement de genre des questions. Mais bon, vous voyez, ça serait une question du genre qu'on pourrait demander, une question du type qu'on pourrait demander à nos cobayes du premier rang, qui serait une société complète. Faut-il, afin de faciliter la sortie du système des énergies fossiles, hein, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui, question d'actualité, sur le fait qu'il faut réfléchir à la sortie du système des énergies fossiles. Le pétrole, etc., le gaz, bon. Faut-il, afin de faciliter la sortie du système des énergies fossiles, surtaxer massivement la vente de l'essence? Question que se posent tous nos élus, du moins ils devraient se la poser en tout cas, tous les jours. Admettons que vous soyez en situation de réfléchir à cela. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la question, est-ce qu'on doit surtaxer l'essence? Ah, vous allez dire, mais si on surtaxe l'essence, les pauvres vont avoir des problèmes pour, justement, payer leur essence, ils ne pourront peut-être pas aller travailler. Problème. C'est peut-être, si on dit oui, c'est une mesure qui est potentiellement discriminante. C'est pas très démocratique d'exclure les pauvres de la vie sociale. Ah. Donc, vous voyez, cette question, tout ça pour vous dire que cette question, elle a un effet sur d'autres questions qui concernent l'égalité ou l'équité. Valeur fondamentalement démocratique. C'est une question d'intérêt général, donc, parce qu'elle touche à très nombreux aspects de la vie collective, et de la vie privée, de la vie individuelle. C'est une question qui est complexe d'un point de vue technique. Question complexe d'un point de vue technique. Donc vous allez devoir vous entourer d'experts. Dire, mais si on surtaxe les énergies fossiles, l'essence, alors par quel type d'énergie remplacer voilà, on va se proposer par exemple des voitures électriques. Mais alors il y a un problème, c'est que les piles, elles posent problème, comme chacun sait aujourd'hui. Elles posent problème parce qu'elles sont potentiellement, les piles, elles-mêmes très polluantes. Donc finalement, comme on dit, on tombe de Charybde en Scylla, c'est-à-dire on déplace le problème. D'autre part, vous voyez, c'est une question de civilisation, parce que la société industrielle s'est fondée sur le principe absolu de liberté de mouvement des individus. Or, si la société industrielle s'est fondée là-dessus, c'est parce qu'on avait des moteurs qui permettaient de le faire. Des véhicules automoteurs qui permettaient de le faire. D'abord le train, ensuite les voitures. Si on a un problème avec cette question, c'est que c'est un problème de civilisation. Ça va remettre en question nos mouvements individuels et collectifs. Ouh là là, ça, si on touche à ça, on touche à la liberté des individus. Alors voilà, donc, je vous ai pas demandé de faire l'exercice, mais vous voyez que si le premier rang devait statuer à la majorité sur ces questions, ça induirait un certain nombre de problèmes. Ça induirait notamment le fait que la majorité se sente extrêmement responsable des choix qu'elle a faits. Le problème de la majorité, si vous voulez, de ce travail sur la majorité, c'est qu'il implique un travail de fond sur des options individuelles, collectives et philosophiques, qui va donner un poids incroyable à la notion de responsabilité politique. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, de se rendre compte que les options qui sont prises à cette occasion sont des options qui engagent le groupe de manière philosophique. Et ça fait une boucle avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui se joue dans le rapport entre la démocratie et le travail de la majorité, ça n'est rien moins que l'ensemble de l'option philosophique qui a été prise par l'Europe et la modernité, l'Occident en général, les USA compris, l'Occident en général, vous voyez, et la modernité, dans un pays de tradition, un pays qui suit des traditions, ou qui suit massivement une religion, ces questions se posent tout autrement. On traiterait autrement le problème. Alors, autre cas, vous voyez, cas d'actualité, alors là, bon, j'ai remarqué qu'il y a plus de filles au premier rang dans mon panel, ça pose un vrai problème compte tenu de mon exemple. Autre exemple, pour travailler sur la majorité et la politique, il paraît que les femmes provoquent en voiture 2 ou 3 fois moins d'accidents que les hommes. C'est pas il paraît, c'est tout à fait avéré par les sociétés d'assurance. Des accidents graves, en tout cas, des accidents graves, il y en a 2 ou 3 fois moins causés par les femmes au volant. Donc, jusqu'ici, comme vous le savez peut-être, leur police d'assurance était moins élevée. Si vous êtes des femmes, vous payez moins cher votre police d'assurance automobile. Or, pour des raisons de non-discrimination vis-à-vis des hommes, de ces pauvres hommes qui ne savent pas conduire, ne doivent-elles pas, les femmes, payer le même tarif que les hommes? Bon, vous voyez, si le premier rang ou l'ensemble de la salle, vous voyez, avait à décider de cette question, vous voyez que les questions qui seraient engagées seraient des questions du rapport très compliqué entre les genres, qui touchent à la dignité des personnes, mais aussi à leur responsabilité. Après tout, les hommes, s'ils veulent payer moins cher, ils n'ont qu'à faire moins d'accidents. Vous voyez ? Donc, ce qui se joue là-dedans, ce seraient les questions du genre, de l'équité, ensuite de la discipline, il faut suivre ce que la majorité a choisi, et de la responsabilité dans l'espace public. Alors, pour la petite histoire, qui est aussi la grande, vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que les femmes paieraient la même chose que les hommes, parce que cette option était discriminante pour les hommes. Hein, je vous laisse méditer cela. Alors, cela dit, venons-en maintenant et plus rapidement aux limites ou aux dangers de la loi de majorité. Dès l'aube de la démocratie, en Grèce, les auteurs, finalement les plus au fait de ces questions politiques, se sont élevés contre la loi de majorité, contre le fait qu'on entende par démocratie l'expression d'un système où s'exprime la majorité, et on estime que c'est le meilleur régime. Ces auteurs dont je parle, ces critiques de la démocratie majoritaire, sont évidemment les philosophes comme Platon et Aristote. Donc vous voyez, les auteurs qui ont le plus réfléchi à la politique, les philosophes, à cette époque, sont en même temps ceux qui ont dénoncé dans la démocratie sa prétention à vouloir être le meilleur régime, alors qu'elle s'appuyait, selon eux, sur le pire des systèmes, à savoir sur le système du démos, si vous voulez, où tout un chacun pouvait s'exprimer et où, en gros, l'agrégation des préférences donnait des options. Hein. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que les fondateurs de la réflexion sur la pensée politique ont dénoncé les dangers possibles, voyez, de l'agrégation des préférences. Alors, dans l'époque moderne, un auteur que vous connaissez peut-être, au moins le nom, Alexis de Tocqueville, aristocrate normand et député, lui-même s'est exprimé sur ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité. Alors, c'est l'objet de développements qui sont très précis, mais dans son grand livre De la démocratie en Amérique, qui date de 1835, Tocqueville explique que ce qu'il appelle l'omnipotence de la majorité, est potentiellement tyrannique. Vous voyez, cette omnipotence fait courir un risque de tyrannie. Tocqueville est un auteur aristocrate qui a vécu la Révolution française. Il a vécu les excès de la Révolution française, en particulier du fait de la terreur. Ce qu'il a vécu, c'est le fait que une majorité prend une option et terrorise la minorité. Alors, il affine son analyse par un voyage qu'il fait aux USA. Tocqueville est connu pour ce grand ouvrage qui s'appelle « De la démocratie en Amérique », dans lequel il décrit ce qu'il voit aux USA par comparaison avec ce qu'il a vu dans la société française après la Révolution française. Il constate que les USA sont nés démocratiques, tandis que sa nation, la France, a dû en passer par cette terrible épreuve de la Révolution, c'est-à-dire de la violence, du sang, hein, de l'exécution du roi, la propre famille de Tocqueville a failli être exécutée, eh bien, pour devenir démocratique. Et ce qu'il remarque, c'est quelque chose finalement, aux USA, d'encore plus terrifiant. En effet, aux USA, il n'y a pas eu de révolution, donc, pour qu'il y ait de la démocratie. Simplement, la démocratie américaine se fonde sur l'expression de la majorité. Bon, très bien. Ce qui produit, dit-il, une instabilité législative. Fondamentalement, les Américains de son époque veulent toujours changer les lois. Quand un système est régi par l'expression de la majorité, quand cette notion d'expression de la majorité devient le principe de la vie politique, on attend de la loi qu'elle s'adapte aux besoins des individus, remarque Tocqueville. Autrefois, disait-il, dans le système féodal, le système d'aristocratie, les individus s'adaptaient aux lois. Les lois ne changeaient jamais, elles étaient fondées sur la tradition. Ce système d'instabilité législative est tout à fait préoccupant. Vous voyez, on va demander aux politiques de changer les lois tout le temps. C'est exactement ce qui se passe dans nos institutions actuelles. De ce point de vue, nous sommes devenus américains, au sens tocquevillien du terme. Nous changeons tout le temps les lois, il y a une instabilité législative très grande. Plus grave encore, Tocqueville estime que la toute-puissance de la majorité est toujours dangereuse, car elle est un germe de tyrannie. Un germe de tyrannie du fait qu'elle produit des effets d'ostracisme, d'exclusion des individus. Alors le temps me manque pour lire des textes de Tocqueville que je trouve, que la postérité a consacrés, quoi, qui sont sublimes, sur le fait que, en démocratie, la majorité, voyez, exerce un pouvoir de consensus, un pouvoir, si vous voulez, de tyrannie des consciences sur la pensée. Généralement, on pourrait faire l'expérience ici, peut-être la faites-vous très empiriquement dans vos classes et dans la cour. Une démocratie, telle que Tocqueville l'entend, semble bien être une société où les individus ont le droit de s'exprimer. Mais dans les faits, est-ce qu'on ne constate pas la création d'un certain conformisme du fait que les individus ont peur de la majorité? Eh bien, ce que dit Tocqueville, c'est que dans un système démocratique, dans une société démocratique, il y a un tel pouvoir de l'opinion de la majorité que les individus véritablement originaux se soumettent au conformisme. Vous voyez, de manière infra-politique, la victoire de la démocratie consacre le conformisme de la majorité. Et ce conformisme de la majorité, il est extrêmement grave parce qu'il va produire, par exemple, dans certains moments critiques de la politique, l'arrivée au pouvoir, il va permettre l'arrivée au pouvoir de dictateurs, que l'inquiétude des concitoyens aura désigné comme des hommes providentiels. On pourrait donner 5 exemples, 10 exemples dans l'histoire du monde. Où c'est une démocratie dans une société particulièrement inquiète qui fait que les individus se sont soumis à la loi de la majorité pour laisser passer des individus douteux supposés être des hommes providentiels. Alors dans l'histoire de France en particulier, il y a un certain nombre de cas qu'on peut mentionner comme ça, et Tocqueville lui-même a connu la montée au pouvoir de Napoléon III, qu'il a lui-même combattu en disant voilà, en essayant de réveiller ses concitoyens. Ce que dit Tocqueville, c'est que nous avons ici un paradoxe considérable. La démocratie génère l'esprit de cour. La démocratie engendre le vice typique de l'aristocratie. Il y a une sorte de renversement, donc paradoxal, qui s'établit ici, c'est que la loi de majorité est tellement prégnante dans la société qu'au niveau infra-politique, au niveau des mœurs, au niveau des options, au niveau des opinions, eh bien, souvent, nous préférons laisser dire avec la majorité plutôt que exprimer ce que Tocqueville appelait les grands caractères de l'aristocratie, ce qu'il nomme dans la démocratie américaine, la virile candeur, la mâle indépendance de la pensée. Bon, il se trouve que Tocqueville est un peu macho parce que les femmes aussi ont une forte indépendance de pensée. Et quoi qu'il en soit, voyez, le fait que des individus disent peut-être que la majorité pense cela, mais moi je pense autrement. Voyez, donc, il y a un vice considérable, hein, quelque chose d'assez inquiétant dans cette loi de majorité qui est la création du conformisme et une forme d'uniformisation, un type d'uniformisation des opinions. Alors, Peut-être faut-il, pour terminer ce développement, pour donner la parole, il me reste quelques minutes, sur le temps de parole qui m'était accordé avant de discuter avec vous sur ces questions, peut-être faut-il conclure en deux temps. Premièrement, on peut conclure en disant que la question de la majorité, la question donc de l'existence, disons l'existence de la règle de majorité, concerne incontestablement ce que j'ai appelé un organe vital de la démocratie. Bien sûr, sans expression de la majorité, il est difficile de parler de démocratie. Mais vous voyez, c'est un organe peut-être vital secondaire. Ça serait peut-être la rate ou le foie, plutôt que les poumons ou le cœur. Mais l'on peut peut-être se dire qu'on a quelque chose d'essentiel et qu'effectivement, s'il n'y a pas, à défaut d'un consensus ou d'une unanimité, s'il n'y a pas d'expression de la majorité, il n'y a pas de démocratie. Quoi qu'il en soit, on peut peut-être partir de là et se donner comme tâche, en sortant ici, en reprenant nos activités ordinaires de vie politique, j'entends par là la vie avec les amis, la vie au sein des familles, moi qui vous dis ça, je suis un grand démocrate dans ma famille, tout le monde peut s'exprimer. Bon, la vie associative, peut-être vous êtes membre d'association ou responsable d'association, et la vie de citoyen. Donc toute cette vie politique qui constitue, vous voyez, notre ordinaire. Eh bien peut-être que la tâche qu'on peut se donner, c'est de passer de la notion de respect de la majorité, d'expression de la majorité, à l'ambition d'une, ce que j'appellerais, vous voyez, une majorité inspirée. Qu'est-ce que peut être une majorité inspirée ? Eh bien, je crois que tout l'enjeu du travail politique dont on va parler dans le deuxième point de la conclusion, c'est justement cela, produire des majorités inspirées. Alors, si le temps m'était donné, je vous lirais un texte d'Aristote, stupéfiant, Aristote, antidémocrate, j'oserais dire, il n'y a pas pire, si, il y a pire, il y a Platon. Platon et Aristote estimaient que la démocratie, en gros, quoi, j'ai dit des choses à ce propos tout à l'heure, mais c'est le régime où les pauvres volent les riches. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, historiquement. Parce qu'un aristocrate comme Aristote pouvait bien s'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, Aristote, dans le livre 3 de son grand livre La Politique, dit, bon, est-ce qu'on peut donner le pouvoir au peuple, à la masse ? Normalement, non, parce que ça crée de la violence. Mais en fait, il y a un cas où c'est possible. Ce cas, c'est le cas où les individus assemblés, donc ils pensent vraisemblablement à l'Assemblée des Grecs, à l'Assemblée des citoyens, démocratique, expriment une préférence qui est juste du point de vue de la justesse esthétique du terme. Quand il se trouve que par moment, quand on peut dire que la foule a bon goût. La foule a bon goût, c'est-à-dire que, vous voyez, le politique se trouve ressourcé, réanimé par l'esthétique. Il dit, voilà, c'est exactement comme dans les concours de tragédie, où les individus qui n'ont pas de formation esthétique particulière peuvent décider que tel tragédien, Sophocle, par exemple, à l'époque d'Aristote, est supérieur à tel tragédien, donc qu'on a perdu le nom d'ailleurs, ce qu'on a gardé, vous savez, Échille, Sophocle et Euripide dans les tragédies grecques. Donc comment se fait-il que parfois, les individus peuvent choisir collectivement, avec bon goût, alors qu'individuellement, ils ne sont pas formés ? Et alors, Aristote, alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute la politique, vous voyez un livre de 500 pages, Aristote ne jure que deux fois. Les deux fois, ça concerne la démocratie. Alors son juron, c'est Nédia, par Zeus, c'est-à-dire mon Dieu. Donc vous voyez, dans tout son livre, il y a deux fois où il dit mon Dieu. Dans les deux fois, il parle de la démocratie. Et il dit, enfin, mon Dieu, il y a un cas où la démocratie peut être pertinente, c'est quand le peuple juge avec une qualité esthétique. Alors d'où des réflexions moi, qui me viennent, c'est qu'en fait, vous voyez, cette dimension culturelle est très intéressante. Ça veut donc dire que pour trouver une majorité inspirée, peut-être il faut s'éduquer esthétiquement. Peut-être que nous, on sera conséquents dans une démocratie quand tous les prix esthétiques, le prix Goncourt pour les livres, les Césars pour le cinéma, tous les prix esthétiques seront devenus des prix populaires. Si ce sont des individus tirés au sort parmi les citoyens qui décernent le César, qui décernent le Goncourt, à ce moment-là, peut-être, nous pourrons de nouveau retrouver des majorités inspirées. Vous voyez, ce que nous dit Aristote, c'est qu'il nous met devant cette tâche politique qui consiste à dire la loi de majorité, c'est dangereux. Fondamentalement, ça peut porter n'importe qui au pouvoir, ainsi qu'on l'a vu dans l'histoire. Ça peut dire des horreurs, ça peut aliéner, dégrader les minorités. Hein, après tout, vous voyez, les nazis avaient remporté l'élection dans la République de Weimar, et ils ont persécuté les juifs, les communistes, les homosexuels. Voilà. La loi de majorité ne garantit rien. Sauf que, il est possible que certaines majorités soient pertinentes quand elles ont une sorte de justesse de goût, quand elles ont bon goût. Donc ça induit, à mon avis, moi je suis un fervent défenseur de cette idée, il est fondamental que chacun d'entre nous s'exerce esthétiquement, voyez, et de là, obtienne une forme de capacité de jugement qu'on n'a pas spontanément. Réussir à fournir la capacité de jugement qu'on n'a pas spontanément. Alors vous me direz, c'est ce que nous faisons plus ou moins, spontanément, compte tenu des instruments qui sont les nôtres, notamment sur Internet. L'expression des préférences culturelles, Internet sert beaucoup à ça quand même. La multiplication des blogs, par exemple, donne une forme de joyeuse cacophonie, qui aurait fait sourire les antidémocrates Platon, Aristote, exprime quand même la volonté d'une expression culturelle, si vous voulez, qui peut trouver peut-être une forme de débouché politique. Alors c'est ma première conclusion. Deuxième conclusion, le débat que j'ai essayé d'animer devant vous, vous voyez, reflète la recherche permanente d'équité, typique de la démocratie. Cette recherche permanente d'équité qui fait que même un critère assez sûr quand même, comme la loi de majorité, ne nous semble pas fondamentalement suffisant pour parler de démocratie. On peut dire aussi que ce débat, cette réflexion sur les relations entre démocratie et majorité, eh bien, nous conduit à la racine du problème politique. Ou mieux encore, à la politique comme problème. Hein, sans jeu de mots, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que ce débat, vous voyez, nous renvoie à l'activité politique et à sa gravité. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie humaine a un sens? Si on ne fait pas de politique. Alors vous allez dire, oui, parce qu'on peut ne pas en faire. Mais dans ce cas-là, on vit une vie privée. On vit la liberté des modernes. Si on décide collectivement du sort qui est le nôtre, si admettons qu'on soit tous sur une île déserte là, et qu'on doive décider ce qu'on doit faire pour gérer les réserves de nourriture qui sont les nôtres. Alors il me semble qu'on va chercher dans la politique non seulement un mode d'organisation entre nous pour éviter la violence, mais on va aussi chercher un certain nombre de réponses concernant notre existence. À quoi servons-nous? Quelle est la finalité de notre existence? Il me semble que le débat, vous voyez, qu'on a sur la loi de majorité et le rapport à la démocratie, implique que l'on trouve dans l'activité politique, vous voyez, un certain nombre de questions concernant le sens de l'existence. Voilà. Je vous remercie de votre attention.